Frères et sœurs bien-aimés, mercredi, avec toute l'Église, nous entrerons dans le temps du carême, cette quarantaine qui est là pour nous mettre à l'écart avec le Seigneur. Ce temps liturgique nous permet de faire comme le Fils prodigue. Le Fils prodigue, vous connaissez la parabole, a demandé l'héritage paternel et est parti mener une vie de grand désordre, dépensant tout jusqu'à son dernier sou avec des filles, nous précisera son fils aîné lorsqu'il le verra revenir vers son père. Une fois qu'il a tout dépensé, une famine sévissant dans le pays, voilà que, comble de la déchéance pour un juif, le seul emploi qu'il trouve en ce pays lointain où il s'est retiré, c'est de garder un troupeau de porcs. Le porc, l'animal interdit, l'animal dans la tradition biblique, signe d'impureté, de telle sorte que, mourant de faim, il n'en vient même pas à envier les porcs, la cochonaille qu'il pourrait en sortir, en bon juif. Il envie les glands que mangent ces porcs. Que fait-il ? Saint Luc use là d'une belle expression qui est celle du temps du carême. Il entre en lui-même. Voilà le Fils prodigue qui entre en lui-même, qui examine sa conscience, qui examine chacune de ses actions, qui examine la raison pour laquelle il se trouve dans cette situation maintenant. Il meurt de faim, la famine sévit, il n'a plus un sou, et finalement, bien qu'un peu trop tard, il se rend compte que la vie dans la maison paternelle n'était pas si terrible. Il opère alors cet examen de conscience salutaire et prend une ferme décision, revenir chez son père. Il a conscience de ses graves manquements, de son indignité, de sa lâcheté, de son péché. « Je ne suis plus digne d'être son fils, peut-être m'embauchera-t-il comme un de ses ouvriers. » Et nous connaissons la suite. Voilà qu'il retourne vers son père et que celui-ci n'attend pas l'amendement honorable, l'humiliation de son fils, tout à la joie de le voir revenir, le reconnaissant de loin, alors qu'il n'arrivait pas avec la superbe par laquelle il était parti, voilà qu'il se jette dans ses bras. « Mon fils que voilà était mort. » Il est revenu à la vie. Le temps du carême, cette quarantaine dans laquelle nous nous mettons à l'écart dans le désert du Seigneur, est là justement pour que chacun d'entre nous puissions entrer en nous-mêmes. Qu'en compagnie du Seigneur, nous puissions faire toute la lumière sur notre existence. Là où nous en sommes, avec le bon Dieu tout d'abord. Là où nous en sommes dans nos différents devoirs d'État, devoirs familiaux, devoirs professionnels ou engagements associatifs. Là où nous en sommes avec le prochain, mettre le doigt sur nos péchés, nos fautes, revenir vers le Père, c'est-à-dire aller chercher le sacrement de la confession, pour lequel il est utile d'entrer en soi-même, d'identifier ses fautes, ses manquements, ne pas alors désespérer à l'école du Seigneur, bénéficier de sa miséricorde, de sa grâce, de persévérance dans le bon combat et décider alors de passer avec lui de l'autre rive. Tout ce cheminement du carême nous concerne et c'est dans cette perspective que le Seigneur, depuis déjà quelques dimanches, s'efforce, à travers ses images, à travers ses paraboles, de nous enseigner. Le Seigneur nous invitait à l'amour de nos ennemis dimanche dernier. Et ce dimanche, il nous rappelle l'exigence avec laquelle la page d'évangile de dimanche dernier s'était terminée, la mesure dont vous vous servez pour les autres au quotidien servira également pour vous. Effectivement, toute cette vie chrétienne que nous passons ici-bas sur la terre, nous avons à la regarder à la lumière du Seigneur, car nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurions éventuellement pu faire si la belle-mère était plus commode, si nos enfants étaient plus conciliants, si notre époux était plus pratiquant. Nous serons jugés sur ce que nous aurons accompli. En vérité, nous serons jugés sur l'amour. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira pour vous. Alors l'impatience dit, il faut que je gagne en patience, puisse donc le Saint-Esprit m'accorder ce don. Celui qui agit sans trop réfléchir se dit qu'il va falloir peut-être qu'il opère davantage de discernement dans ses fréquentations, etc. À l'école du Seigneur, il ne s'agit jamais d'un point final. Il s'agit toujours de deux points qui ouvrent, peut-être sur un autre chemin, mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur ne nous condamne pas. C'est ce qu'il a bien dit à la pécheresse pardonnée. « Je ne te condamne pas, va !» lui dit-il en la relevant, « et maintenant ne pêche plus. » Nous avons donc à examiner, en ce temps du carême qui approche, notre relation avec Dieu. Est-ce que nous prions suffisamment? C'est-à-dire, est-ce que nous tenons suffisamment compagnie au Seigneur? Est-ce qu'en nous levant le matin, en nous couchant le soir, est-ce qu'en passant auprès de l'Église, on s'y arrête pour le saluer, présent au Saint-Sacrement? Est-ce qu'en passant devant une croix, une statue de Notre-Dame, nous nous signons, nous pensons à lui, confions nos intentions de prière, nos actions de grâce, nos défaites et nos échecs, nos demandes de pardon? Nous avons donc à être avec le Seigneur, à nous retirer, nous dira-t-il mercredi, dans le plus secret de notre maison, de notre chambre, pour parler avec le bon Dieu, pour également l'écouter. Ensuite, il faudra bien sûr examiner cette relation que nous avons avec notre prochain. Et dans cette perspective, le Seigneur nous alerte. Il est tellement plus facile pour nous et pour moi le premier de voir et de contempler les pailles innombrables, véritables étables que l'on peut concevoir chez le prochain, et de délaisser cette poutre qui pourtant nous aveugle. Le Seigneur nous l'a dit, la mesure dont vous vous servez pour les autres servira pour vous. Si vous faites miséricorde, Dieu vous pardonnera. Alors nous demandons au Seigneur cette décision, alors que le carême approche, de nous aider à entrer en nous-mêmes, non pas seuls, mais en sa compagnie, pour qu'il fasse toute la lumière sur notre existence, qu'il nous aide à ôter cette poutre, cela sera sans doute douloureux, pour ensuite eh bien, pouvoir affronter au quotidien les petites gênes, les petites peccadilles du quotidien qui pourtant parfois nous en faisons des montagnes. Ensuite, le Seigneur, après cette image de la poutre et de la paille, prend l'image de l'arbre. Un arbre fruitier, frères et sœurs, les jardiniers parmi nous le savent, demande un savoir-faire et une certaine connaissance. Connaissance de cet arbre, de ses différents besoins, de son exposition, mais aussi c'est l'art de la taille, au bon moment, savoir sélectionner les différents branchages. Voilà aussi le temps du carême, où nous nous présentons comme un arbre au jardinier. Et avec Marie-Madeleine, nous rencontrons le jardinier au jardin de Pâques. C'est le Seigneur lui-même qui nous fait passer de l'esclavage du péché à la liberté des enfants de Dieu, qui nous fait passer avec lui de la mort à la vie. Le jardinier doit tailler, parfois sévèrement, d'autres fois avec clémence et parcimonie, pour que l'arbre donne beaucoup de fruits. Eh bien voilà l'image de notre vie. Nous sommes cet arbre et le Seigneur, en bon jardinier, va venir en ce temps du carême nous émonder, tailler ces petites branches trop frêles qui ne permettront pas de porter du fruit. Toutes ces petites morts, ces petits sacrifices, eh bien voilà ce qui nous attend en ce temps du carême. Car le bon Dieu veut pour nous le meilleur, il a choisi pour nous l'excellence. Il le dit bien. Nous provenons de la bonté de Dieu. Ce qu'il y a dans le cœur de l'homme, c'est d'avant tout la bonté. Voilà ce qu'il y a dans l'homme bon. Et ensuite, il nous parle de l'homme mauvais. Mais l'homme mauvais est devenu mauvais. Car comme chacun d'entre nous, il provient de la bonté de Dieu. La bonté, voilà un mot admirable qui mérite notre contemplation, notre méditation. La bonté, c'est la conjugaison de l'amour et du bien. Il est dans la nature de l'amour de se donner. Et Dieu qui est amour se donne à nous sans retard et sans retour jusqu'au don de lui-même sur le bois de la croix. Le bien, eh bien, il est dans la nature du bien de se communiquer. Et la bonté est cette conjugaison de l'amour et du bien. Nous provenons de cette bonté de Dieu. Toute l'œuvre de création est ponctué par cette déclaration « Et Dieu vit que cela était bon ». Mais lorsque nous avons été créés à son image et à sa ressemblance, l'action de grâce divine vit que cela était très bon. Nous provenons de cette extrême bonté de Dieu, créée à son image et à sa ressemblance, nous lui ressemblons par cet amour qu'il a semé en nos âmes, par cette bonté dont nous devons être non seulement les bénéficiaires, mais tout autant les propagateurs, car il est dans la nature de l'amour de se donner, parce qu'il est dans la nature du bien de se communiquer. Eh bien voilà ce que nous avons à opérer dans ce temps du carême. Non pas désespérer toujours de nos péchés, de nos manquements, mais aussi considérer dans l'action de grâce l'amour avec lequel le bon Dieu nous a créés et cette œuvre encore plus grande qui a manifesté son amour, celle avec laquelle il est venu nous sauver. La bienheureuse Vierge Marie, enfin, pour pouvoir nous donner une perspective en ce temps du carême, est venue reprendre sur les bords du Gave, en notre chère cité de Lourdes, ce que saint Jean le Baptiste avait commencé en son temps sur les bords du Jourdain. Elle n'est pas vêtue d'une tunique en poil de chameau, ni d'une ceinture autour des reins. Elle est revêtue de sa robe blanche, de sa ceinture bleue, mais elle reprend le ministère de saint Jean le Baptiste. Elle nous invite, à travers sainte Bernadette, notre chère compatriote, à prier pour la conversion des pécheurs, c'est-à-dire ne pas seulement prier pour nous-mêmes et notre conversion, c'est déjà beaucoup, mais aussi prier et porter le progrès de tous ceux qui nous entourent, car un individu n'existe pas, l'individualisme est une construction d'esprit. En revanche, nous sommes chacun entourés de personnes qui font partie de nos prochains et nous n'avons pas du coup à céder à ces tentations du monde. Nous avons une prière également communautaire à porter et des grâces aussi que nous recevons de la prière les uns des autres. C'est ce que nous appelons la communion des saints. Priez Dieu, nous dit-elle, pour la conversion des pécheurs. Et dans ce chemin de conversion, la bienheureuse Vierge Marie, eh bien, va nous inviter à opérer des actes de pénitence. La bienheureuse Bernadette, à la grotte de Lourdes, va opérer un certain nombre de gestes, de signes que la dame lui demande. Elle n'est peut-être pas capable de rendre compte de la portée complète de ces gestes. Elle répondra toujours par ces quelques mots « pour les pécheurs ». Si elle a compris une chose dans cette relation d'extase qui l'unit à la belle dame, c'est qu'elle a grandement envie de lui faire plaisir. Elle voit combien la dame est belle, belle de cet amour de Dieu, combien elle est toute disponible et radieuse de cette grâce de Dieu. Elle voit aussi à quel point son visage s'assombrit, combien cette tristesse peut gagner notre dame lorsqu'elle parle des pécheurs et du péché. Et Bernadette, dans son cœur, n'a qu'un désir, c'est faire en sorte de faire plaisir à cette belle demoiselle qui lui apparaît. Alors elle embrasse le sol par amour pour les pécheurs. Alors, à quatre pattes, tel un animal, elle mange de l'herbe par amour pour les pécheurs. Alors va-t-elle ramper au fond de la grotte, car le doigt de la dame lui indique où il faut pour aller à la source boire et se laver. Bernadette boit une eau par trop boueuse, et finit par se maculer le visage de cette terre d'argile de laquelle nous avons chacun été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ceux qui ont vu le visage de Bernadette rougi par la glaise ont bien témoigné qu'il était en lui-même si dur, si rouge, avec son grand regard noir, un appel à la conversion. Alors la dame nous invite à aller à la source, pour boire et nous désaltérer. Et dans le désert du carême, nous avons à expérimenter notre faim et notre soif de Dieu qui seul peut combler pour l'éternité nos âmes. De même, il faudra se laver dans la miséricorde de Dieu. C'est la grande vision de l'apôtre saint Jean sur l'île de Patmos. Que voit-il ? Ceux qui viennent de la grande épreuve, nous dit-il. Nous tous qui, dans nos chemins de croix, venons de cette grande épreuve d'ici-bas, ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. C'est l'image de notre baptême. Nous avons porté le vêtement blanc de l'innocence, retrouvés par notre Seigneur Jésus le Christ. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, comme nous lavons nos âmes en allant à la source de l'amour et de la miséricorde, notre Seigneur Jésus le Christ. Alors vous comprenez que la bienheureuse Vierge Marie, à travers Sainte Bernadette, notre chère Bigorre, s'adresse aux hommes et aux femmes de tous les temps pour qu'ils puissent eux aussi aller à la source, se désaltérer, qu'ils puissent se convertir, c'est-à-dire changer leur cœur, que nos cœurs parfois trop souvent de pierre puissent devenir des cœurs de chair, nous dit Ézéchiel, capables d'aimer en vérité. Alors frères et sœurs, nous avons un travail de charpentier pour les poutres qui sont en nous-mêmes. Nous avons également un travail de jardinier à laisser opérer au Seigneur en ce temps du carême. N'arrivons pas mercredi sans trop savoir ce que nous allons accomplir, comment nous allons organiser ce temps du carême, mais arrivons mercredi en nous présentant au Seigneur tel que nous sommes et en lui demandant, reconnaissant nos faiblesses, qu'il vienne manifester sa force et sa puissance, car il veut pour nous le meilleur, car il veut pour nous l'excellence, cette bonté de Dieu. « Venez à moi, dit-il, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, ainsi soit-il. »